Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface, Les Caprices de Thérèse. Dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et au sommaire de cette deuxième émission de la saison, une émission très cinéma aujourd'hui, avec pas moins de 3 coups de cœur ciné qu'on va vous dévoiler avec les équipes aujourd'hui. À commencer par le film Une vie rêvée qui est sorti mercredi dernier dans les salles. Morgan Simon, le réalisateur, Félix Lefebvre et Dylan Bena seront nos invités. On va également parler du film Fêlé qui vient de sortir également dans les salles, un film de Christophe Duturon. À cette occasion, nous allons avoir le grand honneur de recevoir aujourd'hui, tenez-vous bien, Pierre Richard, Charlotte de Turckheim et François Berléand pour nous en parler. Et puis ça sort mercredi dans les salles, Le procès du chien, Laetitia Doche et puis le dresseur de Cody, la star du film, seront avec nous et nous expliquera comment on dresse un chien pour le cinéma. Et puis nos coups de cœur télé avec évidemment aujourd'hui l'éclipse qui continue sur France 2 mercredi soir. À cette occasion, Armel Deutsch sera notre invité. Et puis on va également parler du festival de la fiction télé de La Rochelle. Sophie Réville, la présidente de l'édition 2024, sera avec nous en fin d'émission. Et puis enfin aussi aujourd'hui, on va parler du grand retour de Tonton. Eh bien oui, Simon Coleman est de retour vendredi sur France 2. Jean-Michel Tinivelli nous dit tout.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné aujourd'hui consacré à Une vie rêvée. Ça vient tout juste de sortir en salle. Un film de Morgan Simon qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Morgan.
Bonjour.
Il n'est pas venu tout seul Morgan puisqu'il est venu avec Félix Lefebvre. Bonjour mon cher Félix.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, qu'on retrouve pour la deuxième fois, après un très beau film avec Virginie Efira l'année dernière, et puis Cécile de France aussi. C'est l'acteur qui monte en ce moment. Et puis Dylan Bena, qui est avec nous aujourd'hui, qui joue un peu le caïd du film, mais vous allez voir, mi-ange, mi-démon. Bonjour Dylan.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Morgane, c'est une histoire très personnelle.
Oui, c'est le portrait d'une femme qui ressemble un petit peu à ma mère, donc... Je pense que dans ce genre de figure-là, il y a quelque chose de sacré. Et en même temps, on a envie de dire les choses. Moi, c'est un film de revanche aussi sur ce qu'a pu vivre ma mère dans sa vie. Je pense que c'est un film où il y a de la joie, il y a du drame, il y a de l'humour et il y a de l'espoir. Et j'ai l'impression que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui absolument dans notre société.
Ah oui, c'est clair, on y suit vraiment le parcours d'une femme qui est un peu au bout du rouleau, hein, je crois qu'on peut dire ça, qui vit seule dans un appartement, qui est ruinée avec son fils. Et effectivement, ça explose, tout explose un peu dans sa vie, elle perd son travail. Enfin, des descentes aux enfers que peuvent connaître malheureusement beaucoup de monde aujourd'hui, qui est brillamment incarnée par Valeria Bruni Tedeschi. Et puis on va suivre ce parcours peut-être de reconstruction, d'espoir. Effectivement, c'est ça que j'aimais aussi dans le film, c'est qu'il y a vraiment des notes de comédie, il y a des notes dramatiques. Qu'est-ce qui t'a plu, Félix, en premier d'ailleurs, dans ce rôle? Tu joues le fils de Valeria dans le film.
La première chose qui m'a marqué, c'est vraiment à la lecture du scénario, la sensation de plus qu'un scénario que j'avais lu, c'était un don, un cadeau, quelque chose de très très généreux de la part de Morgan. Et c'était la première fois que je lisais un scénario comme ça. J'avais une sensation différente, un scénario qui se démarquait. Les personnages aussi, on sentait une envie de Morgane de jeu, un amour des acteurs. Même quand je l'ai rencontré, qu'on a fait le casting, c'était pas très orthodoxe la manière de travailler. On faisait les scènes et en même temps on s'en éloignait, on était dans la recherche. Donc tout m'attirait, et en plus faire tout ça en face de la grande actrice qu'est Valeria, c'était c'est banco pour moi en tout cas.
Il y a une scène incroyable entre Valeria et, on va pas la déflorer de trop, parce que même s'il y a une partie dans la bande-annonce, mais entre Valeria et Félix, c'est-à-dire que le personnage de Félix que tu incarnes est toujours très doux avec sa mère, très à l'écoute, très attentionné, toujours très à la soutenir, jusqu'au moment où ça explose, il y a un trop-plein, il y a une capsule qui dévisse et malheureusement à ce moment-là, ça pète. Et cette scène-là, elle est mémorable quand tu vois deux acteurs comme ça, Simon, qui se font face dans un endroit assez restreint, cet appartement. Qu'est-ce que tu te dis derrière la caméra ?
Je me dis que est-ce que ça va assez loin ou est-ce que ça va trop loin ? Et pour l'anecdote, quand on a dérushé ces images-là avec la monteuse au début du montage, ça a pris toute la matinée et d'un coup on entend frapper très fort la porte de la salle de montage. En fait, c'était trois flics qui sont arrivés et en fait c'était les voisins qui avaient appelé, pensant qu'il y avait un drame conjugal qui était en train d'avoir lieu. Et ils étaient totalement hallucinés, donc je leur ai dit on est en train de monter un film. Ils sont restés totalement sur le cul et ils sont venus voir. Ils ont vu Valeria et Félix dans la salle de montage, enfin sur les écrans, et ils étaient vraiment sciés. Et je leur dis du coup c'est crédible. Alors ils font oui monsieur, c'est très crédible. Et à partir de là on s'est dit ouais, peut-être que voilà, le film il y a une justesse qu'on a réussi à atteindre, et faut que ça explose dans la vie de cette femme pour qu'elle renaisse. C'est une histoire d'une renaissance.
Complètement, effectivement. Et malgré tout, il y a des touches de comédie qui sont parsemées pour donner des respirations aussi aux spectateurs. C'est ça que j'ai trouvé vraiment chouette, qu'elle soit amenée par ton personnage, Dylan, aussi, par moment. Même si c'est un peu le Kaïd qui mène un peu son petit business dans l'immeuble. Quand il est rendu au bar d'en face, il se révèle beaucoup plus tendre qu'il n'est, finalement.
Oui, bien sûr. Après, ça ne devait pas être cette scène-là. D'un coup on est parti tous en inspiration sur le plateau, et le réalisateur et le premier assistant, ils ont bien abusé sur moi pour que vraiment je sorte vraiment tout ce qu'il y avait à sortir. Et au final, j'ai juste à les remercier parce que moi-même je suis fier du travail que j'ai pu apporter sur ce projet-là.
Une vie rêvée, c'est vient de sortir au cinéma. On va écouter la bande-annonce et puis on revient juste après avec vous, on continue à en parler. C'est le nouveau film de Morgane Simon qui vient de sortir dans les cinémas.
Oui, c'est Nicole.
Oh, putain. Oui, entrez.
Désolé pour le retard.
Madame, qu'est-ce que vous faites là? C'est bien la banque ici, madame.
Pardon, excusez-moi. Oh, je crois que j'étais chez le médecin.
Vous êtes à plus de 40 000 euros de dette.
Ça, c'est...
Vous vous rendez compte?
C'est beaucoup.
Regardez, la famille
mais
parfaite.
T'inquiète pas, mon bébé.
Un cadeau.
Niveau bouffe, on va se faire plaisir ce soir, mais on va passer un putain de bon Noël.
La souris, attends, il y a la souris.
Tiens.
C'est quoi?
C'est pas exactement ce que tu m'as demandé, mais...
C'est quoi ce Noël de merde, là, t'es absurde.
Tu devrais me dire merci.
T'es un exemple de tout ce qu'il faut pas faire dans la vie. T'es raté.
Il faut que t'arrêtes, là. T'as compris ça?
Vas-y, viens. Prends-moi, je te tue.
Moi aussi, je vais te défendre.
Je te tue. Ah, je veux plus jamais te voir. Plus jamais.
Voilà, Une vie rêvée, ça vient de sortir dans les salles, film de Morgane Simon. Vous allez suivre le parcours de cette femme en pleine reconstruction, avec de l'espoir, avec des moments d'émotion, des moments de rire. Il y a un peu tout dans le film, c'est ça qui est chouette, Morgane.
J'aime beaucoup la comédie italienne et qui mélange le drame et l'humour. J'ai l'impression que, évidemment, Valeria, en plus, elle incarne ça, étant elle-même italienne et ayant cette capacité dans une scène à être dans l'émotion, dans la dérision, dans le drame. Tout est possible, en fait, tout peut se passer à chaque scène. Bien sûr, tout est écrit au scénario, mais ensuite, je laisse aussi vivre, je parle aux acteurs pendant les prises. Je les emmène à différents endroits, je cherche des choses un peu différentes pour chaque scène. Parfois c'est plus drôle, parfois c'est plus dramatique. Comme ça au montage, j'ai beaucoup de liberté, beaucoup de nuances. Et le film, je pense qu'il cherche vraiment la nuance, ne pas être dans des clichés. Donc sans cesse, je crois que j'essaie de déjouer mes propres attentes. Et du coup, par la même occasion, les attentes peut-être des spectateurs. Mais c'est en tout cas la recherche de nuances où chaque personnage a ses raisons. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Et c'est là où ça nous ressemble, je pense.
Exactement. Moi, j'ai beaucoup aimé le film, j'en ai pas raté une bouchée. Et surtout, quand Félix fait le raptor. Parce que Félix fait très bien le raptor. Je vous conseille cette scène. Ça fait partie des moments de comédie.
Alors, je sais plus pourquoi j'avais fait cette danse. Ah, il m'avait dit danse, et après, je m'étais dit, mais C'est toujours, pour moi, la danse est toujours un moment très intéressant parce que ça peut révéler quelque chose du personnage. Et je me souviens, je crois que je m'étais dit comment danserait Serge, qui forcément n'a pas forcément de succès avec les filles, donc n'est pas forcément très à l'aise encore avec son corps, qui danse pour sa mère, il fait l'idiot, donc qu'est-ce qu'il fait? Bon, pourquoi pas essayer de faire le T-Rex. Je crois que c'était ça qui s'était passé, c'était entre la poule et le T-Rex. Donc pour voir un pas de danse entre poule et T-Rex, il faut aller au cinéma.
Bon, t'es pas encore au niveau de Tariq Boudali, mais tu approches tout doucement. On n'est pas loin en tout cas. Y a un très joli casting, Lumta Zabal. Il y a des lauriers qui jouent ta petite amie qu'on voit dans Le Négociateur ou encore aussi dans Tropic Criminel sur France 2. Franchement, il y a un super casting autour de vous.
C'est grâce à la directrice de casting Marlène Serrour, avec qui j'ai déjà travaillé, qui a un sens vraiment pour découvrir des gens qui justement ont une délicatesse, une humanité, une complexité qui fait que moi derrière j'ai simplement à trouver la bonne vibration et à pousser les acteurs au maximum de ce qu'ils peuvent donner, mais tout en étant toujours dans la bienveillance, dans le dialogue. Et en cherchant avec eux, et quand je sais pas, je leur dis que je sais pas, et quand je sais, ils le sentent, et on y va ensemble. Donc il y a une confiance vraiment forte qui fait que entre eux et moi, et entre eux tous et toutes, il y a un lien invisible qui ce film, c'est aussi ce lien qui nous unit, quoi. Et je pense que ça se sent, cette complicité-là, qu'on voit même sur l'affiche, elle est vraie, quoi.
Dylan, elle était difficile, cette scène de premier de l'an qui part un peu en cacahuète, qui part un peu en sucette. Il y a énormément de monde, déjà devant la caméra, mais il y a aussi, évidemment, on imagine plein de monde à l'équipe technique derrière. Est-ce que c'est impressionnant?
Alors, je dirais oui et non. Parce que quand on est accompagné de gens qui sont investis dans ce qu'on fait, t'as cette confiance en soi, et moi j'ai eu la chance de ramener aussi des amis en figuration, donc j'étais dans une confiance où je suis avec mes amis, je ne joue plus, je vis mon rôle, je ne le joue pas, et ça a été juste un délire. Mais c'est vrai que c'était dur parce qu'à un moment on l'a fait la scène, et après Morgane il me dit bon alors on va changer d'angle. Comment ça on va changer d'angle?
J'étais dans l'énergie, mince.
Et on l'a fait, ils m'ont poussé à bout, et la scène ça a donné ce que ça a donné.
Vous allez voir en tout cas Une Vie Rêvée au cinéma. J'espère, Félix, est-ce qu'il y a une scène particulière qui t'a ému, qui a été difficile ou que t'appréhendais, ou au contraire une qui est partie en cacahuète, qui t'a fait beaucoup rire avec Valéria? Est-ce que rencontre incroyable quand même avec Valéria?
Ouais, pour la petite anecdote, il y avait une scène, je vais pas dévoiler vraiment, mais une scène de confidence où ils s'ouvrent un petit peu enfin l'un à l'autre, où à un moment il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a fait qu'on a dévié un peu de l'intention qu'on avait de base de la scène, et avec Valéria étant très friande de ça, Morgane aussi et moi aussi, on s'est totalement engouffré dans une direction qui n'était pas du tout celle de la scène de base, et qui du coup a donné une scène qui est une des scènes préférées de Morgane et de moi aussi. Et voilà, donc est-ce que tu vois de quelle scène je parle quand...
Oui, je commence à imaginer.
Quand je reviens à la maison et qu'après on se dit un peu nos quatre vérités.
C'est la scène de l'apaisement, je l'appellerai.
Voilà, et c'était très très drôle, et Valéria s'est totalement montrée d'une générosité incroyable dans cette scène aussi. Donc, mais toutes les scènes avec Valéria, je me souviens que je tournais avec elle et que parfois même, il y a des moments où ça m'arrivait de sortir de mon personnage, même tellement je me disais, mais quelle chance j'ai de tourner avec cette grande actrice. En fait, ça dépassait le jeu et ça devenait quelque chose qui m'inspirait et qui était quelque chose de très spirituel, Valéria, et qui moi m'a totalement rempli et m'a fait d'autant plus comprendre pourquoi j'aimais ce métier.
Morgane, les projets, est-ce qu'on pense déjà à un autre film ou pas?
Fini d'être écrit déjà, mais la difficulté c'est toujours de financer les films, donc je suis toujours en train de travailler sur les prochains projets et on verra ce qui se passe. C'est des choses très variées. Là, le premier long métrage était sur le père, Comte et Blessure, celui-là sur la mère. Il y a plus grand monde dans ma famille, donc il y aura peut-être pas d'autres films à ce point personnels et familiaux, mais voilà, il y a des choses très différentes, des histoires d'amour ou même des films d'époque, ouais, ça me parle aussi.
Ça fourmille.
Oui, toujours.
T'as bien raison. Félix, les projets?
Donc il y a Une Vie Rêvée au cinéma en ce moment, et il y a le 18 septembre Ni Chaîne Ni Maître qui sort, un film de Simon Moutaïrou, un film important sur l'esclavage. Les autres, je sais pas quand ils sortent, donc voilà.
Tu reviendras?
Je reviendrai, ouais.
Dylan, est-ce qu'il y a d'autres projets ?
Alors moi j'ai juste une petite série qui va sortir là le 20 septembre sur France TV slash, ça s'appelle Appli. Et après les autres c'est j'ai tourné Un Prophète la série et ça va sortir 2025. Je peux pas en dire plus, on n'a pas le droit de parler et voilà.
On va suivre tout ça. Merci en tout cas, merci Morgane, merci Félix, merci Dylan d'avoir été avec nous. Une vie rêvée, c'est depuis 5 jours au cinéma. Il est temps d'aller le voir, c'est maintenant. Merci beaucoup. À tous les trois, à bientôt.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Sur la scène, j'ai laissé mon sourire, mon sourire, mon sourire. Capitaine abandonné, sans navire, sans navire, sans navire. Pardon si j'ai préféré me détruire, quitte à risquer d'abîmer mon empire. Sur la scène j'ai laissé mon sourire, mon sourire. Si seulement j'avais su te le dire, sans avoir à l'écrire sur ma peau. Si seulement j'avais su t'en parler, sans la peur de gâcher la photo. Si seulement oh, oh, j'avais su te le dire vraiment. Si seulement oh, oh, j'avais su te le dire avant. De nos années j'ai gardé ton sourire, ton sourire, ton sourire. C'est lui qui m'a réchauffé dans le pire, dans le pire, dans le pire. Pardon si j'ai préféré retenir les sanglots que je portais sans le dire. De nos années j'ai gardé ton sourire, ton sourire. Si seulement j'avais su te le dire, sans avoir à l'écrire sur ma peau.
Rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, coups de cœur télé consacré à l'éclipse qui continue sur France 2 cette semaine, déjà en intégralité également sur France.tv. Et on continue à en parler avec Armel Dutch justement cette semaine. Bonjour Armel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Cette mini-série bouclée, nous disait Anne la semaine dernière justement, où on va découvrir bien des mystères après la disparition pendant l'éclipse de cette jeune fille. Ta fille.
Exact.
Dans la série, effectivement, puisque tu incarnes un couple avec Thomas Jouanet. Mais qui a eu cette bonne idée ?
Eh bien, l'idée vient donc de Christophe Carmona, le producteur. Et c'est vrai que nous, avec Thomas, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas tourné ensemble. Là, on a fait le calcul, c'est le 12e film qu'on fait ensemble. Donc, on était très contents. Et on a eu un coup de cœur pour interpréter ce couple qui vit cette histoire terrible.
Alors, c'est une histoire assez dingue puisque cette jeune fille disparaît après une éclipse. On se retrouve dans une situation voilà assez rocambolesque avec plein de mystères en plus autour où il va falloir essayer de découvrir ce qu'elle est devenue finalement. Et puis un stress, une angoisse pour les parents. C'est vraiment une série qui aussi entre le fantastique, entre le thriller. Il y a plein de choses en fait qui se mélangent, un mélange des genres vraiment.
Ouais, complètement. Et je pense que c'est pas quelque chose qu'on voyait forcément à la lecture du scénario. C'est vraiment la patte du réalisateur Frank Brett. Moi, vraiment, j'ai découvert, j'avais vu ce qu'il avait fait avant, mais j'ai vraiment là découvert un putain d'artiste, quoi. Je trouve vraiment, autant sur le plateau, autant de ce qu'il a fait du film, sincèrement, je suis assez fan. Ouais. J'aime beaucoup l'approche qu'il a, et avec les comédiens, et avec le récit d'une histoire.
Ça m'étonne pas, on l'avait découvert justement sur un téléfilm unitaire au festival de Luchon, Franck, et c'est vrai que son univers est assez chouette, les images d'éclipse sont magnifiques aussi. Tout est beau, tout est très soigné dans cette série.
Oui, c'est tout à fait très soigné, et même parfois, moi je repense à un plan, sans dévoiler évidemment, mais bon, c'est déjà le pitch, c'est déjà que donc notre fille avec mon mari a disparu, et c'est vrai que moi j'ai l'image là d'un plan qui m'a fait, où j'avais l'impression d'être... je sais pas, dans un film cinéma, quoi, réellement, quoi. Je trouve qu'il est assez bluffant par rapport à ça.
C'est vraiment l'équivalent de 6 films hein, en déco. Alors, l'histoire est bouclée, on le disait avec Anne la semaine dernière. Cela dit, donc, on aura toutes les réponses la semaine prochaine, justement, au mystère qui s'épaississent d'épisode en épisode.
Ouais, ce qui est bien fait, c'est ça, justement. C'est un coup, on pense que c'est ça. Même moi, je me fais encore avoir, quoi. Donc, un coup, on pense que c'est un tel qui a fait ça. Un coup, on pense que c'est un tel. Parce que c'est toujours dans ces histoires de petits villages où il y a toujours plein de secrets qui remontent à la surface, où les gens gardent les choses profondément ancrées en eux. Et puis, tout d'un coup, ça fait ressortir aussi la personnalité des gens quand il se passe un drame comme ça. Et effectivement, dans la série, ouais, on est perdu, quoi. Jusqu'au dernier épisode.
Ça fait du bien de se retrouver, peut-être aussi... comme ça, en pleine campagne à Bozoul, dans des décors magnifiques de montagnes autour de soi aussi. C'est des décors qui sont magnifiques.
Ah mais les décors sont incroyables. Je veux dire, on a un truc dans ce film qui est à perte de vue, je trouve. On a une sensation de grandeur. Donc effectivement, quand une gamine disparaît et qu'on est dans ce décor en tant que spectateur, on le ressent.
Quelque chose d'étouffant aussi.
Alors c'est ça qui était très étrange. C'est-à-dire qu'on a cette impression d'immensité et en même temps qui nous étouffe. Donc c'est là aussi où je trouve que son filmage était vraiment judicieux, quoi.
Bon, on va découvrir en tout cas la suite de cette aventure. On te retrouvera bientôt dans l'ombre de Marlowe aussi, un film pour le cinéma d'Aurélien Arzoun et Bertrand Mineur. Ça sera pour 2025.
Ouais, normalement, ouais. C'est un film qui a été fait avec énormément de volonté. C'est deux jeunes réals qui ont mis toute leur trip dans ce film. Et moi, c'est ça qui m'a plu aussi, c'est ces énergies-là, quoi, que parfois, peut-être, on a tendance à oublier et que vraiment, c'est ça qui nous motive et qui nous porte très haut, quoi.
Et on te retrouve mercredi, du coup, dans l'éclipse, la suite, épisode 3 et 4, sur France 2, à ne pas manquer. Et puis, pour ceux qui sont impatients de découvrir le final, vous l'avez déjà sur France.tv. Merci beaucoup, Armel, d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, à bientôt.
Aujourd'hui, ce sera pour tous l'occasion unique de voir une éclipse solaire totale.
Pourquoi t'as tiré?
J'ai pas tiré, putain, c'est parti tout seul.
Lucas, t'appelles les secours?
Elle est où?
Nour, elle a disparu.
Nour!
Elle a été assassinée, et on vient juste de retrouver son corps.
C'est bien un étranglement. Tu lui avais fait quelque chose?
Je t'ai dit de fermer ta gueule, tu comprends ça?
Il m'a attrapé le bras, il m'a plaqué sur le sol.
Elle avait qu'à dire qu'elle voulait pas.
Nour et Lohan ont une altercation avec Quentin Germain, et 6 jours après, Nour est retrouvée morte.
J'étais même pas à la croix le soir de l'éclipse.
Quentin dit qu'il est resté garé dans sa voiture, à côté de la station-service, et qu'il s'est endormi dedans.
Moi fort, il y a Coco.
Je suis comme ça, moi. Radio Coco m'appelle.
Putain, mais qu'est-ce que tu fais, là?
Je t'aime.
Barre-toi.
Elle a été en contact avec une couverture avant d'être jetée dans le lac.
Et on va continuer avec l'autre partie du couple, Thomas Joanier qui nous rejoint. On continue à parler de l'éclipse. Oui. Thomas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, c'est ce qu'on disait à l'instant avec Armel. Bonheur de jouer tous les deux pour la 12e fois, nous disait.
Alors, chaque fois, c'est bien parce que c'est des partitions différentes, souvent des couples, mais avec des histoires, des problématiques qui changent à chaque fois. Et toujours un bonheur absolu de se retrouver parce que voilà, parce qu'on se connaît très bien et que c'est difficile de tricher avec une partenaire de vie.
Qu'est-ce qui t'a plu dans l'éclipse, justement dans le projet?
Déjà, je trouve que l'intrigue en elle-même, sans parler de mon personnage et celui de mon parcours, disons que c'était un scénario que j'ai pas arrêté de lire parce que je pouvais pas m'arrêter parce que voilà, je voulais savoir ce qui se passait, et voilà. Et donc j'ai été vraiment pris par le suspense, par les personnages, aussi tous les personnages qui étaient aux alentours. Et puis après, pour moi, ce qui était intéressant, pour nous en tout cas, c'était de se retrouver à faire des néo-ruraux, de faire un éleveur, de s'occuper des vaches, de déposer l'uniforme de flic ou de gendarme que j'ai l'habitude souvent de porter.
Pompier ?
Ou de pompiers, enfin voilà, tout ce qui est un petit peu service de l'État. Donc là, c'était vraiment bien. Et après, c'est aussi la rencontre d'un réalisateur, d'un jeune.
Frank Brett est incroyable.
Vraiment. J'avais déjà vu ce qu'il avait fait avec Tomer Sisley sur TF1, qui était superbe. Et là, franchement, les partitions qu'on a eues avec Armel, j'avais vraiment l'impression d'être dans une bulle. On travaillait à trois, à chercher, parce qu'il y avait des scènes difficiles, d'émotions par rapport à
la disparition de votre fille, déjà, tous les deux.
Un deuil, etc. Et donc, voilà, c'était comme une bulle, un petit laboratoire. C'était vraiment très, 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 très agréable de travailler avec ce gars.
Et on va découvrir, j'espère, au fur et à mesure, ce qui s'est passé. Il y a plein de choses, il y a plein de mystères autour de la disparition de votre fille. L'intrigue est bouclée, on le sait. On va découvrir le final dans une semaine. Et on a déjà hâte. C'est vrai que si on a envie d'avaler cette série, de la binge-watcher, comme on dit aujourd'hui, il y a France.tv qui est là. On peut se faire des 6 épisodes d'un coup, en tout cas. Mais c'est une série qui amène beaucoup de suspense. Il y a du thriller, il y a du fantastique, il y a un peu de tout.
Ouais, et je rajouterais aussi qu'il y a vraiment... Il y a une atmosphère. Je trouve que voilà, c'est pas simplement calibré pour suspense, etc. Je trouve qu'en plus, il y a une vraie signature cinématographique de la part de Frank Brett.
De Frank et puis des décors, de Bozoul par exemple.
C'est ça, c'est-à-dire la lumière. Et je trouve que cette série, elle monte en puissance. Comme ça, elle s'imprègne en nous de plus en plus, de plus en plus. Elle monte et elle nous attrape.
Eh ben, en tout cas, elle nous a bien attrapé déjà la semaine dernière. On va continuer à découvrir la suite. Ça sera donc mercredi à 21h10 sur France 2 qu'on va découvrir les épisodes 3 et 4. Merci encore à Armel. Merci à toi d'être venu nous en parler. En tout cas, Thomas, on se dit à bientôt.
À très bientôt. Merci beaucoup.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé est consacré à Simon Coleman qui fait son grand retour sur France 2 et on est bien content de prendre des nouvelles de Tonton Coleman qui est avec nous. Jean-Michel Tinivelli, bonjour mon cher Jean-Michel.
Bonjour à tous, bonjour Alain, comment ça va?
Écoute, ça va très bien, je sens que ça va te rester ça Tonton hein, maintenant.
Ah ouais, ça va rester, ouais, tout le monde appelle de plus en plus Tonton. Ça fait plaisir en même temps, c'est chouette, j'aime bien.
Mais ouais, surtout que Simon Coleman est tellement un carton que ça y est, vous êtes en train de passer dans la cour des grands avec carrément 6 fois 52 minutes ce coup-ci. On change de format et puis avec plus d'épisodes, en tout cas cette année, une vraie saison que l'on va découvrir dès vendredi soir avec un épisode intitulé Balles perdues où le directeur de ressources humaines d'un laboratoire de cosmétiques va mourir au cours d'une partie de paintball. Et à la fois, ça va être aussi l'occasion de Tonton de se montrer toujours aussi tendre avec ses neveux et nièces parce qu'il faut qu'il s'en occupe aussi hein, et ça il l'oublie jamais.
Ouais, c'est ça qui est rigolo en fait, c'est vrai quoi. Il l'oublie pas, il est entre partagé entre son travail et puis son rôle de tonton gâteau pour le coup, ça va être assez mouvementé pour lui, j'avoue cette année-là. Une fois de plus, les enfants grandissent, donc petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. Là, ça commence à. Il y a la grande qui nous ramène un petit mec dans le salon. Ça va rigoler.
ça va donner. Après, il y a des scènes hyper touchantes et ça démarre aussi comme ça, parce que ça va être aussi une fête des mères bien triste pour l'un des petits qui, parce qu'à l'école, évidemment, il y a la fête des mères qui se prépare avec le collier de nouilles hein, ou le papier mâché, évidemment, et évidemment, Tonton va prendre les choses en main.
Ouais, il a plus de maman, et puis ça, on continue à apparaître, on en parlera toujours, d'ailleurs, parce qu'on ne remet jamais de la perte de parents. Il est là pour y remédier, ce tonton, enfin, il remplacera jamais papa et maman. Et puis, effectivement, il y a le petit qui s'aradine, qui est bien triste par rapport à cette fête. Et c'est vrai que c'est des moments émouvants, et c'est pour ça qu'elle est chouette, cette série, c'est pour ça qu'elle me plaît, c'est parce qu'on passe de comédie à émotion, et puis je trouve que c'est ces enfants dont je m'occupe, moi qui n'en ai pas dans la vie, ce mec qui va pleurer. Non mais c'est chouette, non je suis content quoi. En tout cas je pense que ça va être très sympathique et je suis très heureux de retrouver mes petits neveux là. Ça me fait plaisir quoi.
Et puis Flavie, tu vas retrouver aussi.
Et Flavie et puis les copains, et je trouve que comme tu l'as dit en début d'interview, c'est ce qui est génial, c'est que c'est la première fois qu'on fait une vraie saison, 6 fois 52 minutes, on s'est retrouvés plus souvent ensemble, ça a donné quelque chose, ça a soudé, en fait, en gros, on se rend compte que la magie, c'est l'humain, et puis c'est d'être ensemble, c'est de se parler, c'est de s'écouter, c'est de rigoler, et je pense que ça se sent dans ces nouveaux épisodes, il y a une espèce de mayonnaise qui a pris, quoi, entre les copains, l'ami, Flavie, Alika Dalsol, Tad Etienne, etc., et les mômes, et je pense que Vanessa Gage, qu'on n'oublie pas, bien évidemment. Et tout ça, on s'est bien marré, quoi. On s'est bien, ouais. Je suis content.
En tout cas, ça se sent. Et puis, on va avoir 6 enquêtes. Est-ce que ça va être à chaque épisode, du coup, une enquête bouclée? Ou est-ce qu'il va y avoir aussi un fil rouge au fil de cette saison?
Ouais, voilà. Donc, j'ai pas cité tout le monde. En fait, en gros, on a une enquête bouclée par épisode, ce qui se fait assez souvent en 52 minutes. Ce que je veux dire, c'est que je trouve que je me demandais si on allait pouvoir rentrer à cette famille, non, parce que c'est quand même le plus de cette série, au-delà du policier, c'est la famille, quoi. C'est ça qui est rigolo, c'est ce papa solo, tonton, pour le coup, avec ses 3 enfants.
Mais oui.
Voilà, c'est ça, quoi. C'est une espèce de parigo qui vient avec soi, avec son Provence en Sud, et qui se retrouve chef de famille. C'est assez rigolo. C'est pour ça que, voilà. C'est pour ça que ça m'a amusé. C'est pour ça que ça continue à m'amuser. J'espère que ça amusera les gens. Et, on a une enquête bouclée. Et, effectivement, il y a ce petit fil rouge. Et donc, j'ai pas cité ce nom. Je vous cite maintenant. C'est Diane Robert, qui est extraordinaire dans le rôle de la tante. Et qui, effectivement, ce fil rouge, ce sera cette espèce de menace. Je trouve qu'ils ont bien fait de rajouter ça dans le privé. Elle veut récupérer les petits, quoi. Et ça va être vraiment le gros flip de la saison pour les enfants, pour Tonton et pour les spectateurs et triste et trop. Voilà.
Diane Robert en guest, déjà, c'est bien pour cette belle saison.
Ouais, c'est vachement bien. Ouais, on a eu des jolis guests cette année. Diane Robert, elle est formidable dans ce rôle. Elle est vraiment très très bien, quoi. Elle fout un peu les jetons. Mais est-ce qu'elle va y arriver?
C'est ce qu'on va découvrir. Dis-moi, tu rêverais pas d'accueillir Marine Delterme en guest dans Simon Coleman? Ça serait drôle.
Non, je pense que non, Marine, ils sont là dans son rôle de juge ou autre. D'ailleurs, on risque peut-être de se retrouver, on verra.
Mais oui, mon petit doigt m'a dit qu'une mission infiltration se préparait peut-être bien dans les mois qui viennent et qu'on risquait de vous retrouver en tournage peut-être bien cet automne pour une diffusion en 2025, que Fred Marquand avait peut-être pas dit son dernier mot avec Alice Nevers. Ça serait la bonne nouvelle de l'année, je t'avoue.
C'est peut-être la bonne nouvelle, ouais, on verra. Enfin, en tout cas, on est sur du texte, on essaye de, on sait, aller, voilà, je suis un peu sur la même longueur d'onde, sur la même ligne que Marine Delterme. J'attends un texte. Si le texte nous plaît, là, pour le moment, ça se profite plutôt pas mal. On sera en tournage assez rapidement. Je peux pas donner réellement automne ou pas, ça, je sais pas. Mais en tout cas, ça peut aller vite. Maintenant, on est très heureux, on serait très heureux de se retrouver différemment, qu'on réserve quelques surprises à nos téléspectateurs.
C'est ça, voilà. Qui est chouette. On a hâte de découvrir. Et puis écoute, on va se rejoindre très vite puisqu'on va avoir le plaisir de se retrouver dans 3 jours au Festival de la Fiction Télé de La Rochelle, où tu arriveras jeudi normalement, ou vendredi, où tu vas venir découvrir les copains, venir découvrir des fictions et puis venir faire un petit tour aussi, évidemment, pour venir voir le public à la veille du lancement de cette saison. Et j'aurai grand plaisir à te retrouver en tout cas là-bas.
Ouais, je viendrai te faire un petit coucou. Je vais essayer de faire mon max pour être là et pour dire bonjour à tout le monde.
Écoute, moi je t'embrasse très fort, Simon Coleman, le grand retour, c'est vendredi à 21h05 sur France 2. On ne le rate pas, c'est les 2 premiers épisodes de cette nouvelle saison. Et c'est parti pour le 13, le 20 et le 27 septembre pour découvrir cette saison au complet qui sera déjà disponible sur France.tv. Merci beaucoup.
Yes, merci Alain. Je voudrais dire merci à tous les auditeurs, les téléspectateurs, de vraiment nous avoir suivis dans cette première saison. J'espère qu'ils seront au rendez-vous pour la deuxième. On a hâte de vous montrer ce qu'on a fait comme joli travail. Voilà. Merci à toi. Comme d'hab, ça a été un plaisir. Et je te dis à La Rochelle.
Allez, à très vite.
Bonne soirée à tous. Bonne journée. Bisous. Ciao.
Ciao Jean-Michel. On se termine avec un petit extrait. Simon Coleman dans ses œuvres.
C'est la 3e machine de couleur que je fais tourner cette semaine. Ça fait beaucoup de textiles. Hein. Enfin, je dis ça. Allez, on s'active. Tiens, école. Un petit café avant, mon chéri. Tu sens bon, toi. Eh, mon chéri, speed. Parce que tonton a paintball ce matin.
Paintball, je suis avec toi, on n'est jamais allé.
Non, je m'attends. J'y vais pour travailler, tu sais, c'est pas si rigolo que ça. Hein. Et puis toi, t'as cours?
Je n'irai pas en cours.
Comment ça, t'iras pas en cours?
Bah, il est comme ça depuis ce matin.
Ah bon?
Oui.
Bah, qu'est-ce que toi, t'es malade ou quoi? Sam, tu sais que tu peux tout venir, qu'est-ce qui se passe? Y a quelqu'un qui t'embête? C'est qui? C'est l'autre grand costaud, là, comment il s'appelle, Kevin? C'est ça?
Non, avec Kevin, on s'est réconcilié.
Ah bah, tant mieux, je préfère ça. Bah, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a?
Non, mais je crois que j'ai compris, en fait.
C'est parce que c'est bientôt la fête des mères.
Ma maîtresse a dit qu'on allait fabriquer toute la semaine un cadeau pour nos mamans. Et moi, j'en ai plus de maman. J'ai pas envie de fabriquer ce cadeau et je veux rester à la maison.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Notre coup de cœur ciné cette semaine, ça s'appelle Le procès du chien, le premier film cinéma de Laetitia Doche, qui fait son retour dans Chez ton écoute à télé après Irréductible il y a quelques années, où elle avait eu d'ailleurs le prix du meilleur film avec Jérôme Commandeur. Bonjour Laetitia.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous. Et alors, comme c'est le procès du chien, nous avons également Cody qui est avec nous ce matin et son dresseur. Bonjour.
Bonjour.
Daniel, c'est ça ?
Manuel. Voilà, Manuel, et j'ai travaillé avec Juliette sur le film. On était les deux coachs du chien.
C'est génial. Et Cody ? Ça va, Cody ? Ouais, il a l'air au top, Cody. Il me regarde. C'est très radiophonique, tout ça. Alors, le procès du chien, ça se passe en Suisse, déjà, puisque Laetitia, tu es Suisse, hein, c'est un secret pour personne. Et on va y suivre le procès d'un chien qui est mené par une avocate, qui est un peu l'avocate des causes perdues, hein, en quelque sorte.
Oui, alors voilà, on arrive dans le bureau d'Avril Luciani, un peu avocate des causes désespérées, qui voit débarquer dans son bureau un maître chien à moitié aveugle, joué par François Damiens, et son chien. Son chien a mordu une femme au visage, la femme au visage porte plainte contre le maître, parce que le chien, il est assimilé à une chose dans la loi. Et l'avocate va réussir à un moment donné à prouver que le chien n'est pas une chose. Et le juge va dire, d'accord, si c'est pas une chose, c'est vrai que ça ressemble pas à une chose, un chien. Si c'est pas une chose, ce chien, alors c'est possiblement un individu, donc il faut faire le procès du chien. Le premier procès de chien depuis le Moyen-Âge. Et là, ça part en vrille.
Alors, moi, ce que je trouve intéressant, Laetitia, c'est que, alors, la loi évolue en France un peu, mais est-ce qu'en Suisse, le chien est toujours considéré comme un objet ?
En fait, il est assimilé à un bien, mais d'ailleurs comme en France, par exemple en France, quand on divorce, c'est difficile d'instaurer une garde alternée pour un chien, alors que ça serait logique, parce que les deux parents, les deux responsables y tiennent beaucoup. Donc la loi ne peut pas l'instaurer encore, par exemple.
Il y a encore des progrès à faire de ce côté-là.
Parce qu'il est considéré comme un bien meuble, comme une
commode.
Voilà, j'avais cette image-là en tête, je ne trouvais pas le mot, ouais. Ah,
mais c'est ça qui est assez dingue. Comment est venue l'idée, Laetitia ?
Ah, c'est venu parce que je faisais un spectacle avec les chevaux, avec un cheval. Moi, j'ai envie de parler d'écologie, j'ai envie de parler de notre rapport aux autres espèces, en fait. Parce qu'on représente 0,99% des êtres vivants sur Terre, les humains. Moins d'1%. Et on a l'impression que tout fonctionne ou tout est là pour nous servir. Et ça me je me sens concernée, ça me touche et j'ai envie de parler de ça. Et une spectatrice est venue me voir et m'a parlé d'un procès autour d'un chien, un vrai procès qui avait vraiment foutu le feu à la ville. Donc le chien n'était pas coupable, c'était son maître, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et du coup, bah ça m'a intéressée. Je me dis, on pourrait aussi faire une comédie, un truc qui parle à tout le monde, pour tout le monde. Et voilà.
Donc c'est inspiré de faits réels, hein. Il faut quand même le dire, on peut le dire ça.
Je l'ai pas dit. Ah oui, c'est inspiré d'un vrai procès autour d'un chien qui a vraiment déchiré une ville, ouais.
Alors, évidemment, il y a beaucoup de comédie dans ce film. On sent bien ta patte, hein, pour le coup, de comédienne, mais aussi du coup de réalisatrice. Est-ce que c'est difficile de faire les deux ? Parce que t'es quasiment sur tous les plans, en plus.
Je sais pas si c'est difficile. En tout cas, c'est agréable de jouer dans un film. Moi, j'ai été super bien entourée. Il y avait Elsa Amiel qui était là, ma directrice artistique, mon chef-op. J'étais entourée dans le sens où c'était naturel que je joue dedans. Parce que c'est comme, vous voyez, les films de Woody Allen ou de Nanny Moretti. Enfin, ils jouent dedans. Ils vous emmènent avec eux dans leur film. Ils sont dedans, quoi. C'est comme si c'est votre guide dans leur univers. C'est comme si comme on est dans leur tête. Ben voilà. Vous allez voir l'intérieur de ma tête, vous allez me voir dedans.
Bon, en tout cas, je vous dis, voilà, il y a pas mal de comédies, puis on va y découvrir Cody, qui, alias Cosmos, qui est absolument formidable. Emmanuel, il y a eu un gros travail qui a été fait avec Cody pour réagir, pour faire ce qu'il faut. Comment on arrive à dresser un chien ? Combien d'années pour que Cody soit comme ça au top devant la caméra ?
Alors oui, en effet, c'était un très très beau challenge pour nous. Avec Juliette, on fonctionne déjà par formation des chiens acteurs. On a donc notre groupe de chiens, un peu comme une école de chiens acteurs, qu'on forme. Ça prend 2-3 années pour leur mettre un petit peu toutes les bases, hein, comme finalement un acteur humain qui sortirait d'une école. Et puis après, une fois qu'ils ont ces bases-là, il y a un travail spécifique sur le film. Et donc là, on a concentré toute la préparation sur le film sur 2 mois avant le tournage. Et puis après, stratégiquement, on est beaucoup en relation avec Laetitia pour comprendre exactement ce qu'elle recherche, ce qu'elle veut, puisque la mise en scène était très pointue. Le personnage a été écrit comme un personnage finalement humain, enfin avec autant de précision. Donc on essaye d'être le plus fidèle possible au scénario et puis à ce que attend le réalisateur.
On va écouter la bande-annonce, le procès du chien, ça sort au cinéma et on va tout de suite écouter un extrait, on revient juste après avec vous deux. À tout de suite.
Un chien qui a mordu 3 fois, il doit être endormi, c'est ça ce que dit la loi.
C'est vous l'avocate des causes désespérées, faites votre boulot.
Bon écoute, les causes perdues d'avance, tu les laisses de côté.
Je te jure.
Et tu gagnes, le seul limite à tes rêves.
Mais il n'y en a pas.
C'est toi.
Mon petit garçon d'amour, qui fait du croc de dos.
Bon d'accord, on y va.
Cosmos va être le premier chien à être jugé responsable de ses actes dans le premier procès de chien depuis le Moyen-Âge.
Et moi, personnellement, j'adore les chiens.
C'est elle qui défend la femme mordue.
Et ce chien, il est méchant.
Attention, Toupie, Toupie, Toupie.
Le chien Cosmos, sans nom de famille, de sexe masculin. Vous êtes fils de Barba Papa et Chocapic.
Oui.
Le procès du chien, ça sort au cinéma, la comédie de Laetitia Doche, avec Cody, François Damiens, Mathieu Demy, et un casting de fou.
Il y a JP Zadi, il y a Anne Dorval, et il y a une actrice portugaise que nous on connaît pas, mais qui est une star au Portugal, Annabella Moreira, c'est un peu leur Fanny Ardant à eux, qui est démente. Et il y a moi.
Oui, bien sûr, Avril. Comment on pourrait définir Avril d'ailleurs?
Avril, c'est une femme de 40 ans, c'est-à-dire...
39.
Oui, mais non, vous avez raison. Mais dans le sens où elle a grandi avec des codes de l'ancien monde, c'est-à-dire... Moi, par exemple, j'ai grandi... Je devais attendre d'être choisie par un homme. Je pouvais pas draguer. Il y avait toujours un truc où l'homme, c'était le référent. Et Avril, elle a grandi comme ça. Donc, elle sait bien que maintenant, les codes, c'est plus trop ça. Mais elle sait pas comment faire autrement. Ce qui fait quand même, quand un mec la drague au supermarché, elle dit non, je sais comment ça va se passer, je vais encore m'effacer, donc laisse tomber.
Ouais, elle est très drôle cette scène là.
Et donc elle sait, et elle arrive pas à parler comme elle est, elle arrive pas à s'exprimer sans avoir la voix qui part dans tous les sens, elle trouve pas les mots, enfin. Et elle cherche tout le temps à avoir une voix grave. Et en fait, cette femme, elle va se trouver non pas en cherchant sa voix grave, mais en fait en étant convaincue de sauver ce chien, elle va se reconnaître dans le chien, parce que les chiens et les femmes ont un peu plus en commun que ce qu'on pense. Et elle va se retrouver dans ce chien, et elle va vouloir le défendre, et c'est là où elle va prendre toute son ampleur en fait.
C'est un film féministe un peu aussi, vous le verrez, on va pas dire pourquoi, ni comment.
Un peu les amis, beaucoup beaucoup féministe. Un film, c'est une comédie sur les femmes et les chiens.
Alors, c'est ce que tu disais, on entend le mot chien environ 250 fois dans le film, le mot femme environ 100-150 fois, et doigt dans le cul 3 fois.
C'est vrai.
J'ai compté.
Oui, oui, le doigt dans le cul 3 fois, c'est ce que les gens comptent le plus facilement, parce que...
Ça marque.
Oui, c'est ça. Et oui, bah c'est majoritairement chien et femme qu'on entend, c'est vrai. Et puis on entend aussi parler des oiseaux, de l'avenir, de la jeunesse, des forêts.
De la nature et de François Damiens, c'est évidemment, et qu'il faudra tenter de regarder les yeux bien en face.
François Damiens, quand même, non mais c'est incroyable, on va spoiler, dites. François Damiens, je lui ai demandé de jouer quelqu'un qui était malvoyant, il est arrivé en louchant, il a tenu ça pendant 35 jours de tournage.
Non mais en louchant que d'un œil, ça c'est encore pire, quasiment.
Ah bah ça je sais pas, non mais surtout ce qui est dur, ce qui est dingue, c'est d'arriver à faire ça et de jouer en même temps. En fait, c'est un grand acteur parce qu'il arrive à être drôle, à pousser la comédie, mais il est toujours avec des sentiments derrière. Et son personnage, Dariusz Mikowski, c'est un clown, mais c'est aussi un chien, un monsieur qui veut sauver son chien, qui quand même va employer une avocate pour sauver son chien. C'est un personnage qui a...
Il va y mettre tous les arguments.
Oui, tous les arguments, mais parce que son chien l'a sauvé à un moment donné, en fait. Il est seul avec son chien, ce monsieur. Et du coup... Il va sauver son chien. Il veut sauver son chien.
Il y a une scène en forêt, Manuel, qu'on va pas déflorer, évidemment. Mais comment on arrive à faire tout ça à Cody?
C'était une des scènes où on a beaucoup réfléchi, fait d'essais. Donc bah, avec là, il y a Juliette qui a été aussi très investie dans cette scène. Il y a des petits moments... Et voilà, il y a des moments de doublage quand on va sur des choses parce qu'elle est là. Donc Juliette, c'est vraiment elle qui a formé Cody, le chien. Donc depuis qui a été récupéré, elle l'a récupéré dans un refuge. Hein, c'est un chien de la rue à la base, Cody. Et elle a fait un super travail avec. Donc elle a forcément un fort relationnel. Et puis quand il y a une scène du jeu avec ce chien-là, elle peut, on pourrait croire que voilà, ça peut aller plus loin. Et donc on s'est servi du naturel. Ça a toujours été autour du jeu. Ça c'est le principal. Il faut que pour le chien, tout ce qu'il fait dans le film, il est content de le faire. Et comme un acteur ne travaille pas hein, sur un film, il joue dans un film, et le chien c'est pareil.
Je me disais, qu'est-ce qu'on pourrait donner le mot de la fin à Cody? Parce que ça c'est possible, hein Cody? Voilà, Cody était très heureux d'être avec nous. Merci Laetitia, merci Manuel. Et merci Cody. Bravo Cody. À très vite, le procès du chien, c'est au cinéma, le film de Laetitia Doche. À ne pas rater, bravo Cody.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, dans un instant, Pierre Richard, François Berléand, Charlotte de Turckheim et Sophie Réville nous attendent. Alors surtout, ne bougez pas, tout de suite dans Chut, on écoute la télé.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. A tout de suite. Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook. Chut, on écoute la télé.
J'ai l'impression d'être deux. J'en aime une puis j'aime l'autre. Je suis enfermé entre deux. J'en perds souvent le contrôle. Dans les rues de Montreux, on sourit, on prend la pose. De Montmartre à Jussieu, je veux t'offrir une rose. Je t'aime ici, mais n'a peur. C'est toujours une de trop. Dans les bars, dans les lieux, mon cœur se métamorphose. Le désir dans les yeux, j'ai faim de toi, puis de l'autre. Je t'aime ici, mais n'a peur. Je ne t'aime pas. Et vice versa. 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 Pourtant je passe du temps à penser, mes mains qui tremblent sans tromper. Je me lasse d'être aimé. Je t'aime ici, mais la peur. Je ne t'aime pas, et vice versa, et vice versa, et vice versa.
Les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, on parle de Félé qui vient de sortir au cinéma. C'est actuellement dans les salles le nouveau film de Christophe Duturon. Et on a une grande chance d'avoir une partie du casting aujourd'hui avec nous. Pierre Richard qui est là. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Merci d'être là. François Berléand qui est avec nous aussi. Bonjour François.
Bonjour.
Et Charlotte de Turckheim qui est là avec nous aussi. Bonjour Charlotte.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être là tous les trois pour parler à la fois de ce film qui raconte l'histoire de l'association Arc-en-Ciel, qui est un lieu associatif qui accueille des patients ayant souffert de troubles psychologiques. C'est à Marmande, dans le Lot-et-Garonne, qu'on peut découvrir cette association. C'est une véritable association qui existe aujourd'hui et qui aide, et c'est pour ça aussi que le film porte bien le nom Fêlé, des personnes qui ont subi des fêlures dans leur vie, qui ont subi des blessures psychologiques, violentes par moments aussi, et qui viennent se reconstruire. Donc Charlotte, vous jouez la mère de la ville. François Berléand, vous jouez le rôle du directeur d'une entreprise qui donne sa chance justement aussi. Et puis, pas toujours.
Pas aussi sympathique que ça quand même.
Non, il n'est pas toujours sympathique.
S'il prend un adhérent, c'est parce qu'il y a des subventions très importantes.
Il a du mal à admettre que sa fille est différente. Et je peux le comprendre d'ailleurs. Quand on a un enfant comme ça, je pense que pour un parent, c'est très très perturbant.
Et voilà qu'elle tombe amoureuse d'un fêlé. Alors évidemment, il n'est pas très content. Il ne comprend pas surtout.
En tout cas, Pierre, Richard Rougeot, Pierre, le fondateur justement de l'association qui va essayer, dans le film, hein, qui va essayer de se démener, puisque l'association est vouée à changer d'adresse, à changer d'endroit. Sauf que Pierre, bah lui, il a beaucoup d'histoires dans cet endroit-là. Il a toute une histoire personnelle. Il y a plein de choses qui sont remuées face à ce potentiel déménagement.
Bah vous avez tout dit. Oui, non, c'est parce qu'effectivement, il a fondé cette association, il a fondé cette maison avec son épouse. Elle était très intéressée par le problème des fêlés. Et puis, je l'ai suivie au fond. On a fondé cette maison et puis voilà qu'elle décède. Et donc, je continue sans elle. Et voilà qu'en plus, on nous voilà obligés de céder cette maison parce qu'on n'a pas d'argent pour ni pour l'acheter, ni pour la louer, et qu'on va me virer. Et pour moi, c'est un désastre. Alors, tout le film, il est que tous ces abonnés, ces fêlés, se mettent tous d'accord pour cette chose complètement insensée. C'est bon, ben, on va gagner de l'argent pour pouvoir l'acheter. Autant dire que le premier jour, ils avaient récolté 30 euros. Bon,
l'affaire s'avère compliquée.
Et moi, j'étais désespéré. Donc, à la fois, ce film, il est... Je dis pas qu'il est tragique, mais il est quand même parfois grave, triste et un peu dramatique et tout. Et puis, et c'est ça qu'il y a de mieux dans les comédies, c'est quand il y a un mélange de comédie et de tragique et de comédie. L'un et l'autre se confortent d'ailleurs. Et tous ces fêlés se mettent en quatre selon leur manière, leur méthode pour essayer de trouver de l'argent, ce qui est évidemment complètement, je dirais qu'on touche au burlesque même. Hein, on touche au burlesque carrément.
Et c'est ça qui est drôle.
Le burlesque, ce mélange de trivial et de solennel.
Et puis à la fois avec Bernard Lecoq, j'ai ce duo tous les deux avec Bernard, où lui est presque...
Bernard, c'est un homme, comment dirais-je, sensé, rationnel. Lui, il n'arrête pas de me dire, mais t'es fou, tu vas jamais pouvoir acheter cette maison.
Déménageons.
Oui, puis d'autant plus qu'on peut avoir une très belle maison pour rien. Et moi, je veux garder celle-là parce que c'est celle de mon ex-épouse. Mais évidemment, c'est complètement fou. C'est dans ma tête. C'est d'où justement le tragique et le burlesque dans le film.
François, c'est amusant de jouer justement à ce chef d'entreprise, alors qui au début paraît plutôt sympathique et puis qui s'avère, voilà, je voulais pas trop en dévoiler moi tout à l'heure, mais
oui, bah c'est encore une fois, moi quand j'ai lu le scénario, je me suis posé la question. Mais je venais de voir un film qui s'appelait Sur l'Adamant, qui était un documentaire de Nicolas Philibert, absolument extraordinaire, sur justement des cas psychiatriques soignés dans une espèce de structure un peu comme... Oui, absolument, ouais. Tout à fait. Donc c'est un bateau sur la Seine, à côté de Bercy. J'ai été bouleversé par le film et, je sais pas, deux semaines après, on m'a donné le scénario. Je ne sais pas si je l'aurais accepté, si j'avais... Ça m'avait vraiment intéressé. Je me suis dit, mais si on peut faire la même chose, c'est tellement... Voilà, c'est important de faire un film comme ça parce que... on a toujours des a priori sur... sur ce qui n'est pas normal, sur la non-normalité. Et je pense que ce film va peut-être, enfin pour ceux qui le verront, va au moins pendant allez, 6 mois, les faire changer un peu d'avis sur l'autre. Celui qu'on ne connaît pas, celui dont on a peur. Maintenant, les fêlés, voilà, est-ce que ce n'est pas eux qui sont dans la vraie vie, quoi ?
C'est ça, c'est la question qu'on peut se poser, hein, surtout en voyant le film. Et puis cette mère que vous jouez, pour le coup, M-A-I-R-E, hein, Charlotte, aux prises avec les politiques, c'est tellement d'actualité.
Oui, et surtout, moi, je vous avouerai que c'est pas tant ça qui m'a motivé dans le film, c'est le fait que j'adhère profondément au fait qu'on est tous un peu fêlés. Et que nous, les comédiens, peut-être que notre chance, c'est de pouvoir, justement, la faire vivre, cette folie. On dit tous, moi, je suis toujours très troublée d'entendre pratiquement tous les acteurs disent, si j'avais pas fait ça, je serais devenue dingue. Ou si j'avais pas fait ça, je serais en prison. Ou si j'avais pas fait ça, je serais alcoolique. Donc notre métier nous permet d'être plein de personnalités différentes, et ça nous évite peut-être le pire, quoi. Donc je pense que cette fêlure, cette dinguerie, on est extrêmement nombreux à l'avoir, presque tout le monde, je pense, et qu'à un moment on craque ou on craque pas, on a vraiment, selon les accidents de la vie, comme ils disent, vous perdez votre boulot, votre femme vous quitte, enfin, vous perdez quelqu'un de cher, et puis d'un coup, on peut sombrer d'un coup, quoi. Et ben, il y a un endroit où on vous attend et on peut vous accompagner, on n'est pas tout seul.
C'est ça qui est beau dans cette maison, l'arc-en-ciel. Il y a un groupe, c'est en autogestion totale. Et donc ce groupe fait que les gens vont mieux, puisqu'ils peuvent parler, puisqu'ils peuvent...
C'est la solitude qui est dramatique. Les gens, ils crèvent de solitude, et encore plus quand on va, les moments où on va pas bien, on a tous tendance, évidemment, à rester dans notre coin, et ça empire les choses. Là, le fait d'avoir ce espèce de rendez-vous, même tous les matins, ce cérémonial du café, tous ensemble...
Ils ont déjà ensemble, il y a ceux qui sont de corvée de cuisine, ceux qui sont de corvée de vaisselle, ceux qui sont... C'est une espèce comme ça, de vie commune.
D'émulsion, puis ils s'apportent tous les uns les autres, on le voit, parce qu'avec le nouvel adhérent qui arrive, lui, qui a des idées, par exemple, sur Internet, etc., pour essayer de développer le crowdfunding, etc. On le voit bien.
La gestion, les courses, ils s'entendent entre eux, ils rient. Nous, on n'a jamais senti, d'ailleurs, la moindre tension. En un mois et demi, j'ai jamais vu un ou deux qui s'engueulent ou tout ça. Même une petite... Non, au contraire.
Oui, c'est ça. Et Patrick Devalet aussi, il a dit un truc qui était vachement intéressant.
C'est un des acteurs du film, Les Chiches Capons. Il a dit, c'était mon plus beau tournage. Je dis, ah, c'est incroyable que tu dises ça. Il me dit, parce que tu sais, sur les tournages, il y a tellement d'égo, les acteurs, les techniciens, les machins. Il y a toujours des petites histoires, des petits drames, des petits trucs un peu minables, en fait. Et là, il y avait quelque chose de plus grand que nous, quelque chose de plus important que nos petites personnes et nos petits égos. Et donc, du coup, ça faisait une ambiance, comme dit Pierre, extrêmement chaleureuse et paisible, parce qu'on n'allait pas s'engueuler pour savoir qui est la plus grande loge, quoi. Bien sûr, tu vois. Oui.
J'imagine les beaux échanges qui resteront certainement gravés pour vous tous avec des adhérents de l'association, avec ces gens-là. J'imagine les échanges que vous avez pu avoir avec eux qui vont rester gravés certainement en vous à jamais, quoi.
Pour eux, les derniers jours étaient tristes un peu quand même, surtout. En tout cas, sûrement que quand nous sommes tous partis à Paris ou ailleurs, ils ont dû être très tristes pendant un bout de temps, mais comme je leur fais confiance, ils ont... Mais c'est vrai que nous aussi, on était un peu tristes.
La fin d'une aventure.
La fin d'une aventure et d'une aventure particulière que probablement je ne revivrai pas. J'ai d'autres films à faire, François aussi ou Charlotte. Cette aventure-là, elle sera unique dans ma carrière.
Moi, j'avais un tout petit rôle, mais franchement, le peu que j'ai eu avec justement des adhérents, ça m'a vraiment troublé. Notamment parce qu'il y a des regards qui sont tellement différents d'un regard de cinéma quand vous faites des champs contre champs, par rapport au regard, on ne doit pas faire de regard caméra, gauche cadre, droite cadre, enfin bon, etc., des choses que eux ne faisaient pas. Et c'était d'une justesse incroyable. Après un montable, peu importe, mais c'était, moi j'ai pris vraiment une leçon, quoi.
Chouette, on a l'impression en tout cas que vous avez vécu une belle histoire avec eux et maintenant à nous, spectateurs, de la vivre aussi avec vous au cinéma puisque le film Fêlé est déjà dans les salles. Je vous conseille en tout cas d'aller le voir, il est dans toutes les bonnes salles de cinéma déjà en ce moment. On va se quitter avec la bande-annonce, merci infiniment à tous les trois d'être passés nous voir. Merci Pierre, merci François, merci Charlotte et on vous dit à bientôt en tout cas.
Merci, merci bien.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Pour comprendre qui sont nos adhérents, imaginez un homme ordinaire. Mais abîmé, fragile quoi. AVC, burn-out, rupture amoureuse, un accident, une faillite.
On peut dire que ce lieu concerne potentiellement tout le monde.
C'est la maison le problème ?
Malheureusement, la question ne se pose pas. La mairie est obligée de vendre.
Il doit bien y avoir une solution.
À part l'acheter nous-mêmes, cette maison, je vois pas...
Bah voilà, c'est super ça.
Bah oui.
Vous avez essayé le crowdfunding ?
Chut, on écoute la télé, spécial festival.
Allez, on va terminer cette émission comme il se doit chaque année avec le Festival de la Fiction Télé qui démarre demain du côté de La Rochelle avec la présidente de cette année, Sophie Réville, qui est avec nous. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors d'habitude, on se retrouvait chaque année pour les petits meurtres d'Agatha Christie. Ben là, c'est en tant que présidente pour cette année, en tout cas, du Festival de la Fiction qui démarre demain, une édition 2024 qui réserve beaucoup de surprises déjà.
Oui, d'abord, on a créé de nouveaux prix du public, des prix grand public qu'on attribue avec notre partenaire Télé Loisirs. Il y en avait un et on en a créé quatre. Ensuite, un nouveau prix qui est le prix Unifrance, décerné par des journalistes étrangers. Il y aura également des avant-premières prestigieuses. Hein. Vous savez que toutes les chaînes nous confient les programmes les plus attendus de la rentrée. Il y a par exemple une avant-première mondiale de la première série de la plateforme Max, qui est avec...
Une amie dévouée.
Une amie dévouée avec Lorca Lamy, mais il y a aussi la nouvelle série de TF1 Cat's Eyes que tout le monde attend.
J'avoue que je l'attends avec impatience, celle-là aussi.
Ouais, vous êtes pas le seul. Il y a aussi la nouvelle série de Dominique Besnéard, donc Après 10%. Là, il a fait Ça, c'est Paris, hein, une série sur un cabaret. Voilà, donc plein de choses excitantes.
Et puis surtout un président de jury qui va mener, on va voir, à la baguette ou pas, son jury, Thierry Godard, cette année, qui va être très très bien accompagné de Bastien Burger, de Sonia Roland, Caroline Franc, Stéphanie Pilonka, qui a déjà eu d'ailleurs des prix ici au Festival de La Rochelle, Jérémy Nadeau et Pauline Gigax. Franchement, ça s'annonce plutôt bien.
Oui, vous savez, les professionnels étaient 2900. C'est énorme, hein, on se rend pas compte pour notre métier.
C'est de pire en pire ou c'est de mieux en mieux? Je sais pas comment on pourrait dire.
C'est de mieux en mieux, bien sûr. Et le public de La Rochelle suit. Il y a eu l'année dernière 15 000 spectateurs qui sont venus à toutes nos projections. Donc c'est un festival qui a une croissance spectaculaire, qui est devenu vraiment complètement irremplaçable. Et je pense parce que c'est le seul festival français qui est réellement dédié à la création.
C'est clair. Il y aura les cafés de la fiction, évidemment, les rendez-vous de la création francophone, le grand débat artistique qui sera consacré à quel héros pour la société d'aujourd'hui cette année, le grand débat politique où on posera la question entre l'audiovisuel privé et public, c'est plus que jamais d'actualité, ce débat-là entre union sacrée et concurrence acharnée, et puis le grand débat francophone, la francophonie est vraiment au cœur de cette édition, hein, cette année encore plus que d'habitude peut-être.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on est honoré du fait que le 19e sommet de la francophonie, qui se tient à Paris au mois d'octobre, a choisi le Festival de La Rochelle comme partenaire. Il salue tous les efforts qu'on fait depuis des années, hein, que fait le Festival pour la francophonie. Et voilà, c'est extrêmement prestigieux pour nous.
Alors, il y aura aussi, bien sûr, des compétitions, compétitions francophones. Il y aura les unitaires, les séries de 52 minutes, de 20 minutes, qui vont être récompensées lors de cérémonies. On va en parler, cérémonies d'ouverture demain soir et puis de clôture samedi, avec une petite nouvelle cette année.
Effectivement, cette année, une nouvelle maîtresse de cérémonie, une humoriste qu'on adore, qui s'appelle Antonia Randinger, vous allez beaucoup l'aimer, elle est authentique, elle est drôle, et donc elle présentera la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture.
Et on a eu l'occasion d'ailleurs de l'accueillir dans la région pour ses spectacles, hein, parce qu'elle fait un très très joli spectacle sur scène, et elle déchire pas mal Antonia, donc je pense qu'elle va dynamiter un peu encore tout ça, à manière que Mathieu le faisait si bien depuis plusieurs années aussi. Alors il y aura plein de rendez-vous, il y aura évidemment les talents à d'amis vont être aussi mis à l'honneur, bien évidemment, mais il y aura beaucoup de personnalités qui vont pouvoir se croiser. Le Festival de la Fiction, c'est le plus grand rassemblement de comédiens et de professionnels en France.
Absolument. Seront présents Géraldine Nakache, Doria Tillier, Alex Lutz, Charlotte de Turckheim, Julie Gayet, qui a à la fois réalisé un film dans lequel elle joue. Hein.
Et puis bien sûr, il y a les quotidiennes, le rendez-vous incontournable avec les dédicaces vendredi et samedi. Ça va être un balai fou sur le cours des dames.
Absolument. Alors les dédicaces, c'est pris d'assaut. Vous savez qu'il faut s'inscrire. Hein. Alors d'abord, on aura l'équipe de Ici Tout Commence. Elsa Lunghini, Sabine Perrault seront là, Lucien Belvès, Galad Quenouillère.
Ensuite, June, pour ceux qui connaissent le personnage.
On continue avec Demain nous appartient. Il y aura Ingrid Chauvin, Luce Mouchet, Nelly Lawson, Mayel El Hadjaoui. Plus belle la vie, encore plus belle. On va accueillir Anne de Cisse, Marie
Henré,
pardon, Johanna Boyer, Imaki Lartigue, et puis enfin, Un si grand soleil, seront présents et présentes Marielle Kals, Lila Guiraud, Mélanie Maudrange, Sylvain Bocara, Fabrice Deville et, lui je l'aime beaucoup, je viens de le faire tourner, Moïse Santamaria.
Oui, et ça va faire plaisir aux dames, hein, Moïse, hein, évidemment. Et d'ailleurs, on le rappelle, puisqu'on est le 9 septembre, c'est le grand jour aujourd'hui. Un si grand soleil change de chaîne ce soir. Donc à partir de 20h40, il vous faudra vous mettre sur France 3 et non plus France 2. C'est donc dès ce soir un rendez-vous à ne pas manquer. Et puis ce soir, Sophie, on va vivre ensemble l'avant-festival, puisque vous m'avez confié le bonheur d'animer la soirée d'avant. Ça sera à Pont, où on verra Olympe de Gouges avec l'équipe de Julie Gayet, justement, pour faire découvrir déjà au public Charentais-Maritime une avant-première avant le festival. Donc on va passer une super soirée, évidemment, on va s'y diriger juste à la fin de cette émission. Merci beaucoup, on se retrouve tout à l'heure, et puis demain, évidemment, on va faire vivre pendant toute la semaine ce festival Haut en Couleur.
Écoutez, c'est formidable. Merci beaucoup. Nous aussi, on est ravis que vous soyez là, et j'ai envie de dire rendez-vous demain. Hein.
Oui, c'est clair, et comme depuis maintenant, je sais plus, on compte plus les années, mais 18 ans, on va vous le faire vivre en folie, ce festival, évidemment. Tout au long de la semaine, il y aura des lives, il y aura des Insta-lives, il y aura des stories, évidemment. Il y aura deux émissions en direct et en public depuis la terrasse de la Brasserie des Dames, la nouvelle Brasserie des Dames. Ça sera jeudi et vendredi de 18 à 19h que vous pourrez suivre en direct, évidemment, sur nos réseaux sociaux. Merci Sophie, bonne semaine. On y va, c'est parti pour ce marathon.
C'est parti.
Allez, c'est parti. Merci beaucoup Sophie, à très vite.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connectés avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chut, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connectés avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé, et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chut, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chut, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de pots gourmands, Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez les boutiques, les ateliers de Langélis à Pontaillac, La Rochelle, La Cotinière et Bordeaux. Chut, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.